Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. La lutte contre les djihadistes au Niger, plusieurs soldats nigériens ont été blessés, un certain nombre d'autres sont portés disparus après une attaque près du village de Tongo-Tongo, région de Tillabéri dans l'ouest du pays. Un secteur proche de la frontière malienne où 4 soldats américains et 5 militaires nigériens avaient péri dans une embuscade en 2017. C'est ce que rapportent des sources sécuritaires ce mercredi. La patrouille de l'armée est tombée mardi après-midi dans une embuscade tendue par des hommes armés et il y a eu plusieurs blessés évacués à Niamey, a déclaré à l'AFP une des sources en question. Une seconde source a précisé que plusieurs soldats nigériens ne répondent pas encore à l'appel et qu'un des véhicules des militaires attaqués avait sauté sur un engin explosif. Toujours concernant l'Afrique de l'Ouest, 3e conférence régionale épiscopale des leaders religieux catholiques de la sous-région à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette rencontre à laquelle participent 150 évêques, archevêques et même des cardinaux se tient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes contre la communauté chrétienne. Compte rendu de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Environ 150 cardinaux, archevêques, évêques, secrétaires généraux d'une dizaine de conférences épiscopales de la sous-région ouest-africaine participent à cette 3e assemblée de Ouagadougou. Le clergé, qui a la ferme volonté de redonner un second souffle à l'action de l'Église dans la sous-région, veut, à travers cette thématique du développement humain intégral, relever un certain nombre de défis à travers l'Église famille de Dieu. Le cardinal Philippe Draogo, archevêque métropolitain de la ville de Ouagadougou.
Tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest veulent contribuer à relever des défis majeurs, prioritaires et urgents des populations confiées à leur sollicitude pastorale. La balkanisation de l'Afrique suite au congrès de 1885, la pauvreté, les conflits et guerres fratricides, les maladies, l'analphabétisme, le chômage, le terrorisme, la malgouvernance, la corruption et j'en passe. Comment l'Église famille de Dieu en Afrique occidentale pourrait-elle contribuer à éradiquer ces maux qui minent nos sociétés, promouvoir un développement intégrale qui prennent en compte la personne humaine et sa dignité.
Et comme il fallait s'y attendre, l'actualité liée aux attaques terroristes contre les symboles religieux et les membres des communautés religieuses s'est invitée dans la rencontre. Monseigneur Paul Ouedraogo est le président de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger.
Nous sommes là pour vivre Église, penser Église et voir ensemble comment redonner du souffle à notre action missionnaire. Vous conviendrez avec moi que l'actualité de ces derniers jours ne fait pas du Burkina Faso une destination de premier choix. Et ce, d'autant plus que dimanche dernier, une attaque terroriste a visé expressément une communauté catholique en pleine célébration eucharistique, faisant 6 martyrs. Et hier encore, dans le diocèse de Waïguya, une attaque avec 4 victimes et la destruction de la statue de la Vierge Marie. Au Niger, à Dolbel, une attaque avec le curé blessé ou à la main et à la jambe où il a reçu des balles. Tout ceci dit que notre région ouest-africaine est fortement troublée.
Un défi sécuritaire sur lequel a insisté le porte-parole du président de la République, le ministre Siméon Sawadogo, en charge de la cohésion sociale.
Ces attaques terroristes inqualifiables, où tous les nombreux victimes qu'elles font ont pour colorer des risques de conflits intercommunautaires, de repli identitaire, d'activation de relents religieux, en somme, de fragilisation du tissu social. Le gouvernement du Burkina Faso examinera avec le plus grand intérêt les conclusions de cette rencontre et surtout vos propositions et contributions à la promotion de la paix et du développement humain durable dans les pays de l'espace ouest-africain.
Plusieurs personnalités se sont succédées pour exprimer l'importance de la mise en place du système et environnement qui redonne sa dignité à l'homme et un avenir à la jeunesse africaine.
Pour les siècles des siècles. Amen.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Soudan, le conseil militaire au pouvoir depuis l'éviction le 11 avril du président Omar al-Béchir. Et le mouvement de contestation aborde ce mercredi soir la phase finale de leur dialogue avec l'espoir de s'accorder rapidement sur la composition d'un conseil souverain, organe suprême d'une période de transition fixée d'un commun accord à 3 ans. Jean-Roger Bion donne des détails sur l'accord déjà conclu par les deux parties à l'issue de discussions marathon.
Jusqu'ici, les manifestants voulaient 4 ans alors que l'armée voulait écourter la période à 2 ans. Selon le général Yasser Atta, membre du conseil militaire, les 6 premiers mois de la transition seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Il a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future assemblée législative. Elle comprendra, a-t-il précisé, 300 membres désignés et sera constituée à hauteur de 67% par des représentants des manifestants réunis au sein de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC. Le reste de l'assemblée sera occupé par les forces politiques non affiliées à l'ALC.
Rwanda, Kigali a décidé de fermer la frontière avec l'Ouganda. Chauffeurs routiers et commerçants ont quitté la zone frontalière alors que les soldats des deux pays s'y sont déployés en raison des tensions bilatérales. Ce blocus résulte de la dégradation des relations entre les chefs d'État rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni, d'anciens alliés dans les années 1980 et 1990, quand ces deux leaders s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. La méfiance réciproque entre les deux présidents a éclaté au grand jour ces derniers mois. Chacun a proféré à l'encontre du rival les mêmes accusations d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi normalise les relations entre son pays et la Belgique. Il en a fait de même avec l'un des voisins du Congo, le Rwanda. Plus de détails avec Edi Sango.
Une haute délégation de la Belgique avec à sa tête le premier ministre Didier Reynders a rencontré les chefs de l'État congolais mardi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les deux pays normalisent leurs relations en froid durant les dernières années du régime de Joseph Kabila. Les chefs du gouvernement belge préfèrent les termes de redynamisation et du réchauffement des relations selon sa déclaration. Il était accompagné entre autres de René Nishkens, envoyé spécial belge pour la région des Grands Lacs, et du général-major Philippe Bouquet, adjoint du chef de l'état-major de la Défense. Le régime de Kabila n'avait pas digéré les efforts de la Belgique qui faisait pression en vue d'empêcher les 3e mandat du président congolais qui ne s'est finalement pas présenté à la dernière présidentielle. Entre-temps, la coopération a été suspendue. La maison Schengen à Kinshasa, sorte de consulat européen géré par la Belgique, a été fermée et les activités de l'agence belge de développement, Enabel, gelées. Par ailleurs, la fréquence des vols de Brussels Airlines entre les deux pays a été réduite. Aujourd'hui, tout revient à la normale. Le nouveau président a aussi normalisé les relations avec le Rwanda. Vendredi, il a reçu à Kinshasa les chefs d'état-major des forces de défense du Rwanda.
Relations États-Unis-Russie maintenant. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et son homologue américain Mike Pompeo se sont livrés mardi à une passe d'armes sur les accusations d'ingérence de Moscou dans les élections de 2016 aux États-Unis. En dépit de leur volonté affichée de renouer le dialogue entre Washington et Moscou. Le point avec John Lindon.
La visite du secrétaire d'État américain à Sotchi sur la mer Noire avec au programme une rencontre avec le président Vladimir Poutine constitue la rencontre au plus haut niveau entre responsables des deux puissances et rivales depuis le sommet d'Helsinki de juillet. Après 3 heures d'entretien, les deux chefs de diplomatie ont multiplié face à la presse les appels à aller de l'avant, mais le sujet de l'interférence dont Washington accuse Moscou est revenu sur la table. Si la Russie s'ingérait dans la présidentielle américaine de 2020, cela aggraverait encore notre relation, a averti M. Pompeo, demandant à Moscou de démontrer que ce type d'activité appartient au passé. Sergueï Lavrov a qualifié pour sa part de pure fiction les accusations de collusion entre Donald Trump et la Russie. Il a de nouveau démenti toute ingérence. Selon lui, les faits montrent que tous ceux qui montent ce sujet en épingle n'ont pas de preuves. Le chef de la diplomatie russe a qualifié ses pourparlers avec Mike Pompeo de francs et utiles. Nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de rétablir les canaux de communication. Ces derniers temps, ils étaient gelés. Les points de discorde restent nombreux et les deux responsables se sont également opposés sur le Venezuela, M. Pompeo demandant à la Russie de cesser de soutenir le président Nicolas Maduro.
Et pour terminer, le département d'État américain a ordonné ce mercredi à son personnel diplomatique non essentiel officiel en Irak de quitter l'ambassade de Bagdad et le consulat d'Erbil dans le nord du pays dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran. Merci de votre attention.